Je voudrais aborder donc ce soir le troisième point de notre problème, c'est-à-dire la définition de la fonction du mishpat, du jugement. Alors, je vous rappelle que la première soirée, nous avons étudié les définitions de la catégorie du tzedek, c'est-à-dire de la vertu de justice et de sa finalité dans l'histoire. Et le deuxième point était plutôt centré sur la notion de tzedaka, et nous étions de cette attitude qui est en tension entre la charité et la justice. Et nous étions arrivés finalement au dernier point de l'analyse, c'était donc avant-hier soir, à la définition de la fonction du juste comme protection de l'histoire. Je reviendrai donc très brièvement dans l'introduction sur cette perspective de la finalité de l'existence du juste le long de l'histoire, avant l'aboutissement et la réussite de l'histoire du monde créé, et sa fonction de protection, sa fonction de garantie, de l'histoire du monde, d'abri de l'histoire du monde. Et nous rappellerons aussi les deux perspectives, suivant qu'il s'agit du tzaddik, du juste à la manière de Noach, le tzaddik à l'échelle universelle, hors d'Israël, et d'autre part, le tzaddik à la manière d'Abraham, relié à la Torah d'Israël. Nous aurons à reprendre cela assez brièvement comme point de départ de l'introduction. Mais je voudrais d'abord définir ce que sera l'objet de l'analyse de ce soir, le mishpat, c'est-à-dire le jugement. Ce terme signifie, comme nous l'avions d'ailleurs vu dans les analyses de vocabulaire, l'intervention du point de vue de la justice dans la société et par conséquent institue, légalise, légitimise plus exactement la justice comme institution, c'est-à-dire les tribunaux. Et la question se pose ainsi dans les textes de la tradition juive, et la distinction entre tzaddik et rachar est finalement l'objet d'un effort de la vertu de l'homme. Comment se fait-il que l'identité humaine ne fonctionne pas d'emblée dans la catégorie de la justice, c'est-à-dire de sa propre perfection? De même que, si vous voulez, au niveau de la vie animale, au niveau finalement de toute existence dans le monde qui est le nôtre, il n'y a pas de tension entre l'existence et la valeur. Les animaux vivent d'emblée de façon exacte du point de vue de leur nature. Comment se fait-il qu'il y ait une tension entre l'existence de l'homme et la valeur par rapport à laquelle il doit être jugé? Ou si vous voulez, d'un certain point de vue, quelle est la finalité de la vertu de justice comme mitzvah, c'est-à-dire comme obligation? Or, dès que nous arrivons à définir un certain nombre de personnes à l'intérieur de la société comme des tzadikim, cela signifie qu'ils ont réussi à faire coïncider leur existence et la valeur qui définit, du point de vue du jugement de valeur, la valeur qui définit l'authenticité humaine. Mais, comme nous l'avons vu aussi au terme des analyses précédentes, ils sont une minorité. Ils sont cette minorité des justes qui sont la garantie de l'histoire, mais ils ne sont pas tous les hommes. Et quelle est la relation entre la justice et les autres hommes, ceux qui ne sont pas les tzadikim? Cette relation est nommée mishpat, c'est-à-dire une réauthentification des hommes qui ne sont pas les tzadikim à travers le jugement, c'est-à-dire à travers l'incarnation, la projection des valeurs de la justice tzedek dans une société où les hommes ne sont pas les tzadikim. Et nous verrons la perspective d'une sorte, je m'excuse du terme, mais de récupération de ceux qui ne sont pas les tzadikim dans le sens de l'histoire et de son authenticité. C'est donc à la réflexion sur cette catégorie du mishpat, la loi comme jugement, et non plus seulement la loi comme table de valeur qui définit une identité et qui par conséquent authentifie celui qui est en tzedek, en adéquation avec cette identité, et que nous serons occupés ce soir. Lorsque nous avons parlé de la fonction théologique du juste, en tant qu'il est la protection de l'histoire, nous étions arrivés finalement à établir une sorte de gratuité de la vertu du tzaddik comme tel. Je veux dire que l'effort qu'il a mené à être tzaddik protège l'histoire des autres. Et cela ne concerne pas encore sa destinée individuelle. Et nous aurons donc à réfléchir sur un premier point, sur le problème de la destinée individuelle du tzaddik. En ce sens qu'il y a une gratuité du fait d'être tzaddik. Je vous citerai immédiatement deux références talmudiques qui l'indiquent de façon très directe. La première est « Sraar mitzvah behay alma lika ». Dans ce monde-ci, il n'y a pas de salaire des mitzvot. Dans ce monde-ci, il n'y a pas de récompense de l'effort de vertu. Le fait d'être tzaddik n'a pas sa récompense dans ce monde-ci. Par conséquent, pendant tout le temps de l'histoire de ce monde-ci, la présence du tzaddik sert à autrui, sert à protéger l'histoire des autres en général, mais ne concerne pas sa destinée individuelle. La deuxième citation, qui est très proche d'ailleurs, consiste à nous dire que dans tous les cas, nous ignorons ce que doit être le salaire ou la récompense, la sanction, la rétribution du tzaddik. Iyata yodear matan sraran shel tzaddikim. La rétribution du juste est donc renvoyée, je vais parler un peu schématiquement, mais enfin renvoyée à un autre monde, Olam Haba, au monde qui vient, comme nous disons en hébreu, mais disons à un autre monde, je ne dis pas l'autre monde, cela aurait d'autres résonances, mais à un autre monde que le nôtre, que celui de l'histoire. Et d'autre part, nous n'avons aucune, a priori, aucune connaissance de ce que serait ou sera la rétribution du tzaddik. Voici donc quel est le point de départ de cette première réflexion. La gratuité de la valeur du tzaddik en tant que bouclier protecteur de l'histoire humaine nous mène à poser une deuxième question, et quelle est la destinée individuelle du tzaddik lui-même, étant donné que son maître de tzaddik, pendant toute l'histoire de ce monde-ci, est d'une gratuité absolue. C'est-à-dire, le tzaddik ne s'attend pas à avoir la récompense de sa vertu. D'abord pour le premier point. Et l'analyse que nous avons eue nous a fait comprendre ceci. Pendant tout le temps que l'histoire du monde se déroule, un jugement qui serait parallèle au déroulement de cette histoire dans le temps et dans la durée serait inévitablement disqualifiant, si j'ose dire. Et étant donné que, si nous reprenons la ligne de signification de l'histoire du monde d'après la tradition biblique, ce n'est qu'au terme que le monde sera justifié, que apparaîtra l'évidence que le monde avait une signification, qu'il méritait d'avoir été créé. Mais pendant tout le temps des étapes qui mèneront à ce terme ultime de la réussite, où, en fin de compte, pour reprendre, si vous voulez, le filigrane de notre analyse, où c'est vraiment la moralité qui sera la réalité, où les hommes, dans leur existence, coïncideront avec la perfection qu'ils devraient être, et leur authenticité, ce n'est qu'à ce moment-là, ultime, que l'histoire du monde sera justifiée définitivement. Pendant tout le temps du déroulement de cette histoire, eh bien, un doute peut être mis en évidence quant à la légitimité de l'histoire des hommes. Il faut donc une protection, un abri. C'est l'existence à chaque génération, déjà, d'hommes qui ont atteint cette authenticité humaine qui garantit la continuité du projet du Créateur. Est-ce que c'est suffisamment clair? Mais encore une fois, et précisément, cette fonction messianique, si j'ose dire déjà, du juste, est absolument gratuite. Elle est désintéressée de manière absolue. Elle ne concerne pas sa destinée individuelle. Et il y aurait, à la limite, un caractère tragique ou dramatique, si vous voulez, dans ce caractère privé de sens de l'existence d'un homme, le tzaddik, dont la fonction est de garantir la possibilité d'existence d'être moins parfait que lui, absolument imparfait, qui n'aurait pas mérité d'exister au nom du jugement des valeurs morales, et qui cependant existe à l'abri du mérite du tzaddik. Mais si le tzaddik lui-même n'est pas pris dans la signification de la destinée humaine, alors nous serions renvoyés à un certain absurde. Je sais bien qu'il y a une certaine, si vous voulez, noblesse, mais purement gratuite, abstraite, purement intellectuelle, à dire que la vertu du tzaddik, c'est précisément de garantir l'existence d'autrui, et que lui ne recueille rien du point de vue de la signification de sa destinée. Mais une réflexion plus profonde nous montre que il y aurait une injustice fondamentale dans le projet de la création si certains êtres devaient être privés de la rétribution de leur effort afin que d'autres existent. Et qu'en fin de compte, l'absurdité de la destinée humaine serait évitée pour ceux qui ne sont pas des tzadikim, mais elle serait renvoyée à la destinée individuelle des tzadikim eux-mêmes. En tout cas, ce n'est pas cette atmosphère-là qui est celle de l'évaluation de la destinée du tzadik selon la tradition juive. Eh bien, nous avons un verset extrêmement important dans le prophète Habakkuk qui va nous éclairer sur ce problème. Le verset est le suivant, c'est la fin du verset 4 du chapitre 2 du prophète Habakkuk et qui dit « Betzadik be'emunato ichye » « Le juste vivra par sa foi. » Et je voudrais essayer de vous transmettre, si vous voulez, l'analyse traditionnelle de ce verset du point de vue de la tradition juive. J'ouvre une toute petite parenthèse, et dans la controverse judéo-chrétienne au sujet des rapports entre la foi et le mérite, à laquelle j'avais fait un peu allusion, je ne sais plus si c'était au premier cours ou au deuxième, il arrive que la citation qui est donnée par les théologiens chrétiens de ce verset soit un peu différente, et au lieu d'avoir l'expression « Betzadik be'emunato ichye » « Le juste vivra par sa foi », on nous donne la citation « Le juste vivra par la foi ». Et je pense que vous avez dû rencontrer des textes où ce verset est ainsi cité. Et il est possible d'ailleurs que ce ne soit pas du tout intentionnellement, mais malgré tout l'expression « par la foi » ou « par sa foi » renvoie à deux perspectives théologiques très différentes. Alors revenons en tout cas au texte hébreu. « Betzadik be'emunato ichye » ça signifie que pendant tout le temps de la vie de ce monde-ci, qui est notion auquel nous renvoie l'expression « ichye » vivra pendant le temps de la vie de ce monde-ci, ce qui fonde la dignité du tzadik pour lui-même, si j'osais, je dirais, ce qui l'aide à vivre, eh bien, c'est sa émouna, sa foi. Sa foi en quoi? Quel est l'objet de cette foi qui est définie par ce possessif, sa foi? Qu'est-ce que c'est une foi de tzadik, une émouna de tzadik? Nous avons déjà rappelé que le terme de émouna, que nous traduisons par foi habituellement, signifie donc étymologiquement en hébreu en confiance, et confiance en une promesse. Alors nous arrivons ici, si vous voulez, à l'essentiel de l'analyse théologique de ce problème, la confiance que sa destinée individuelle à lui aussi a un objectif, a une portée, a une finalité et a une effectivité. Au fond, et celui qui a le plus besoin, peut-être, si j'ose dire, au niveau en tout cas existentiel, de cette vertu de la émouna, de la confiance, c'est le tzaddik. Parce que, bien évidemment, la vertu n'est authentique que si elle est désintéressée et gratuite. Le fait qu'il soit le tzaddik garantit l'histoire des hommes. Et par conséquent, la question de l'avenir de sa destinée à lui, qui servait à cela de garantir l'histoire d'autrui, est la plus centrale. Et si j'osais le dire aussi schématiquement, enfin je vais le faire quand même, mais c'est de dire que celui, parmi tous les hommes, celui qui a le plus besoin de la émouna, c'est bien le tzaddik. Parce qu'on pourra rendre compte de l'effectivité, de la signification, de la finalité de la vie de tous, sauf celle du tzaddik, si la vertu du tzaddik devait être définitivement et absolument désintéressée et gratuite. Il n'y a rien de plus blasphématoire dans l'atmosphère de la tradition juive de considération de ce problème que la gratuité de l'effort. Est-ce que l'expression est suffisamment claire? Que l'effort moral n'est pas de schar, c'est-à-dire finalement de rétribution dans la confirmation de l'être. Eh bien, d'après la Gemara que nous allons étudier tout à l'heure en deuxième point, il apparaît que cette émouna, c'est la émouna dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans le fait que l'histoire de ce monde-ci débouche sur quelque chose d'autre. Et nous aurons à ce propos à réfléchir précisément sur la différence de destinée entre celui qui est déjà tzaddik et celui qui, dans la société humaine, ne l'est pas, qui n'arrive pas à faire coïncider son identité existentielle d'individu avec la table des valeurs qui définit l'authenticité humaine. Je ne dis pas le rachat à proprement parler, enfin, celui qui n'est pas tzaddik et qui se trouve être récupéré d'une certaine manière par la teshuva, par la repentance et par le mishpat qui garantit cette teshuva, ce retour à l'authenticité humaine. Nos deux questions s'entremêlent très, très exactement, c'est-à-dire simultanément le sort de celui qui n'est pas tzaddik, qui n'est pas authentifié par sa vertu, et d'autre part la destinée de celui qui est tzaddik et qui garantit l'existence des autres. Donc le premier postulat auquel nous arrivons, c'est que la définition de la Emouna, confiance en une certaine promesse, c'est, en ce qui concerne le tzaddik, la Emouna de l'accès au Olam Haba. Que ce monde-ci mène quelque part, et que c'est dans ce Olam Haba que se dévoilera la confirmation de ce que l'effort moral, la vertu du tzaddik, avait une signification, et que bien que gratuite, elle n'était pas arbitrairement privée de rétribution. Ça nous pose donc le problème de la définition de la finalité de la vertu, telle que l'enseigne la tradition juive. C'est très exactement le problème du fondement de l'obligation morale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une obligation morale est perçue par la conscience humaine et celui qui réalise et nommé tzaddik est perçue comme obligation? Vous savez que les philosophes de la moralité ont cherché dans toutes les directions possibles une explication, une réponse à cette question. Lorsque la conscience éprouve une valeur comme obligation, elle se trouve premièrement devant un mystère. Qu'est-ce qui fait que la voie du commandement de moralité soit impérative et m'oblige? Quelle est la nature de cette expérience? Qu'est-ce que ma conscience ressent lorsqu'elle ressent un devoir comme devoir? Je pense qu'il est inutile d'énumérer les différentes réponses qui ont été données par les moralistes à ce sujet, mais on peut mettre en évidence le point commun qu'elles ont toutes. Elles consistent à ramener la moralité, la définition du bien comme tel, à autre chose. Vous trouverez certaines morales qui ramèneront la définition du bien à ce qu'est à la raison, au rationnel. C'est ce qui est rationnel qui est bien. Et ce qui est bien est à accomplir parce que cela est rationnel. Ou d'autres morales vous diront que c'est l'intérêt de la société qu'il faut réaliser. Et par conséquent, dans la voie de l'obligation morale, c'est en réalité l'impératif social que l'on entend. Mais il y a tout un éventail de théories de ce genre. Ce qui frappe, c'est le point commun de toutes les théories du fondement de l'obligation chez les philosophes, et qui est que la moralité n'est pas définie pour elle-même, mais toujours ramenée à quelque chose d'autre. On peut remarquer qu'il y a aussi un postulat commun, un autre postulat à toutes ces philosophies, un postulat de nature métaphysique, pardon, et qui est que tout se passe comme si on admet comme évident que l'homme existe déjà. C'est-à-dire, on n'assigne pas d'explication au fait que l'homme existe dans la durée et qu'il y a précisément une distance et une tension entre son existence instinctive et d'autre part l'ordre des valeurs qui l'authentifierait. C'est-à-dire, deuxième point, on ne sait pas expliquer la finalité du temps, de l'histoire, la finalité de la durée qui fait que la manière d'exister de l'homme consiste à exister dans un effort de durée. À quoi sert la durée? Le postulat de toutes ces philosophies est que l'homme existe déjà et que par conséquent, il doit occuper son temps à la vertu, mais la vertu, c'est quoi? C'est-à-dire, point d'interrogation, et on est renvoyé à cet éventail des théories, c'est l'occupation du temps de l'homme dans la plus grande dignité possible, suivant les postulats de chaque philosophie, soit la raison, soit le service de la société, soit la recherche du bonheur, soit la recherche de la jouissance, des plaisirs, toutes les morales classiques telles qu'elles sont enseignées dans l'histoire de la philosophie. En fait, la réponse de la tradition juive à ce sujet, c'est que la moralité comme telle a une finalité propre, essentielle, et que cette finalité répond aussi à la question de l'existence de l'homme à travers la durée et le temps. Et vous savez à quel point toute la tradition biblique est fondée sur cette notion qu'il se passe quelque chose à travers l'histoire et qu'à partir d'un point de départ, nous sommes dirigés vers un avenir qui est nommé par les textes « Olam Haba », le monde tel qu'il est en train d'advenir, le monde qui vient. Et c'est au terme de cet effort historique que l'homme aura réussi à engendrer une humanité authentifiée, c'est-à-dire celle du Tzedek. Et vous retrouvez là la description de tous les prophètes de la Bible, la vision de la fin des temps et de la fin de cet effort de l'histoire qui aura permis à l'humanité d'engendrer enfin un être qui permette le jugement du Créateur, parce qu'à ce moment-là seulement le jugement pourra être positif et le monde sera confirmé et justifié. Bien, la réponse sur ce point est la suivante. La finalité de la moralité, c'est précisément de nous faire acquérir le mérite d'être. Il y a une résonance métaphysique à l'effort moral et qui nous renvoie à une définition de la vertu morale en soi, essentiellement pour elle-même. Le prix à payer pour mériter l'être que nous avons reçu au moment de la création, c'est la moralité. Et donc, la moralité a cette finalité de nous confirmer l'être que nous avons reçu avant même de l'avoir mérité. Et c'est pourquoi nous existons à travers le temps, en quelque sorte pour avoir le temps d'acquérir ce mérite. Ceci nous explique pourquoi la justice est considérée comme une mitzvah, c'est-à-dire comme une obligation à remplir, et non pas seulement comme le fonctionnement naturel le plus authentique possible de l'identité humaine, puisque l'homme n'est pas naturellement moral. L'homme n'est pas naturellement moral, et c'est dans l'acquis de la vertu du tzaddik qu'il, en quelque sorte, acquitte la dette acquise, contractée au moment de la création. Pour le dire dans un autre vocabulaire, l'être est reçu en grâce à l'origine et tout le temps de l'histoire a pour finalité de le confirmer à travers le mérite moral qui est nommé dans ce vocabulaire et le tzedek, la tzedaka, qui aboutit à faire de l'homme le tzaddik. Ou en d'autres termes, pour employer ce vocabulaire, l'homme ne naît pas tzaddik, il doit le devenir. Il y a une finalité au fait de devenir tzaddik, c'est de confirmer le droit à être qui ne nous est pas donné au début de l'histoire, mais qui finalement est acquis à travers cette transformation de l'identité humaine, d'être de nature à l'être de la valeur morale, c'est-à-dire le tzaddik. Et par conséquent, pendant tout ce temps de l'effort, il est bien évident que, si j'ose dire, les exemplaires déjà réussis de cette humanité ultime, les tzadikim, soient définis, selon cette cohérence biblique, soient définis comme étant effectivement les boucliers et les protecteurs de l'histoire du monde. C'est à l'abri de ces réussites déjà faites que l'histoire du monde se développe. Et par conséquent, si le tzadik réfléchit à la portée, prend conscience du problème et du mystère, si vous voulez, de sa propre destinée, le fait d'exister dans ce monde-ci, alors qu'il est déjà de l'ordre de l'existence du monde qui vient, alors c'est lui qui découvre le problème de la émouna, c'est lui qui découvre la nécessité de la confiance que la promesse de la signification du monde vaut aussi pour lui. Je pense que c'est ainsi que l'on peut relier ces deux notions. C'est-à-dire, le problème de la destinée individuelle du tzaddik, rattaché d'autre part au problème de la définition du fondement de la valeur morale, c'est-à-dire le problème du mérite d'être. Et cette émouna chez le tzaddik concerne la émouna du olam. Nous aurons peut-être à revenir sur cette définition lorsque nous aborderons le texte de la Gemara qui l'éclaire. Mais tout cela est donc valable pour le tzaddik lui-même. Il faut donc réfléchir aussi au cas des autres hommes dans la société, ceux qui ne sont pas des tzaddikim. Eh bien, la Torah prévoit, en quelque sorte, ou en tout cas nous dévoile, la dimension du mishpat comme dimension, si j'ose dire, de récupération dans l'ordre d'une destinée qui a une signification, même de ceux qui ne sont pas reliés à l'ordre de l'acquisition du mérite d'être par la vertu de justice, c'est-à-dire, telle que nous l'avions définie, par le fait d'être tzaddik. Je citerai en point de départ une Mishnah importante du Pirkei Avot qui nous dit ceci. C'est une exhortation aux juges, qui est donnée pour les juges, qui sont précisément chargés de dire le jugement de la vérité morale sur la conduite des hommes. Ce fait de confronter ce que l'homme est avec l'ordre de la vérité morale absolue, cela est nommé le Mishpat. On pourrait croire le jugement. On pourrait croire que finalement la fonction du jugement est essentiellement de sanctionner dans le sens de la punition si une faute a été faite. Et le fait que quelqu'un soit appelé en jugement, c'est déjà mettre en évidence qu'il n'est pas tzaddique, qu'il y a eu une inadéquation avec la loi de vérité morale absolue, et par conséquent que le fait d'être appelé en jugement est une conduite disqualifiante pour celui qui est appelé au jugement. Il se dévoile par la Mishnah que je voudrais vous citer qu'il n'en est absolument rien, bien au contraire. La Mishnah nous dit ceci, et peut-être nos sociétés ne sont pas habituées à cette atmosphère de la définition de la fonction du juge en tant que chauffette, l'homme du Mishpat. Il nous dit ceci, lorsque deux plaideurs qui sont en contestation entre eux et par rapport à la loi, sont appelés en jugement, il faut les considérer tous les deux comme coupables, et après que le jugement ait été donné, il faut les considérer tous les deux comme innocents. Et avant même d'entrer, si vous voulez, dans l'analyse de détail de ce texte, il apparaît un principe extrêmement important. C'est que le jugement innocente dans tous les cas, enfin innocente, ce n'est pas le terme exact, rend innocent. Par le seul fait que l'homme accepte d'entrer dans le processus du Mishpat et de recevoir le verdict du Mishpat, alors il redevient tzaddik. Et c'est ce que nous appelons en d'autres termes l'identité du Baal Teshuvah, c'est-à-dire de celui qui s'était écarté de la charte de l'authenticité humaine, n'était plus tzaddik, et cependant, un jour, a la possibilité de revenir à cette authenticité. Ce qui se dévoile à travers la Mishnah que je viens de vous citer, c'est que la fonction du Mishpat est de réjustifier, de rendre de nouveau juste. Quand bien même, il s'avère que le verdict du Mishpat va imposer une punition, une rédemption à réaliser à celui qui était en porte-à-faux avec la loi. Quand bien même, le verdict est un verdict de sanction. Et ceci est mis en évidence par l'expression de la fin de cette Mishnah qui dit « Mipenei she kiblu alehem et adin » c'est-à-dire le fait que ceux qui étaient appelés en jugement ont accepté sur eux le verdict du jugement les revirginise, si j'ose dire, du point de vue de leur identité morale. D'autre part, il y aura à payer la dette, si vous voulez, à réaliser l'expiation de la faute, mais déjà, le jugement comme tel re-authentifie celui qui n'était pas tzaddik. D'où, d'une façon générale, pour notre tradition, l'importance rédemptrice, si j'ose dire, du tribunal comme tel. Le fait qu'une société possède un tribunal, et par la fonction même du tribunal, récupère à l'intérieur de la société des tzaddikim, ceux qui ne l'étaient pas. Je crois qu'il était important de mettre donc en évidence la relation à ce niveau entre la notion de Mishpat et celle de Tzedek. La notion de Tzedek est premièrement la description de l'authenticité de l'homme qui a rejoint le principe de la justice et qui par conséquent, au niveau de son propre individu, sur le point de son histoire à travers l'histoire universelle, a déjà réussi l'objectif de tout ce qui se passe à travers ce monde-ci. Et puis d'autre part, le Mishpat, qui est la fonction de jugement qui permet le salut de ceux qui n'étaient pas les tzadikim. Et bien ceci nous est enseigné à propos d'un verset qui introduit précisément la notion de Mishpat dans la Torah. D'une certaine manière, nous pouvons dire que la table des 10 commandements représente la table de la définition de l'identité du tzaddik. Et par conséquent, d'une certaine manière aussi, on devrait conclure immédiatement que celui qui se trouve dans une inadéquation quelconque avec la table des 10 commandements, qui récapitule d'ailleurs l'ordre des 613 commandements de la Torah, aurait perdu cette identité de tzaddik et de façon définitive. Vous souvenez de ce qu'est l'introduction aux 10 commandements. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, etc. Et ensuite l'énumération des vertus qui définissent qui est Israël. Et ça signifierait, si tu n'es pas adéquat à cette définition, tu n'es plus Israël. Pour le rattacher à notre problème, ça signifierait que l'homme serait hors de la définition du tzaddik dès la première faute, dès la première inadéquation avec cette charte qui décrit ce qu'est l'identité du tzaddik. Mais immédiatement, précisément après le texte des 10 commandements, apparaît toute une législation qui est nommée dans le vocabulaire de la Torah les mishpatim, c'est-à-dire les jugements. Je voudrais très brièvement donc éclairer cette analyse par la citation de ce verset. Si vous voulez noter la référence, c'est le premier verset du chapitre 21 de l'Exode. Après avoir donc énuméré et décrit les critères d'identité qui font que l'homme est appelé à être tzaddik, ce sont donc les 10 commandements, pour le dire schématiquement, et la Torah ajoute, et voici les principes du jugement. À propos de ce, et voici les principes du jugement, ve'ele hamishpatim, et voici les Mishpatim, c'est le pluriel de Mishpat, et voici les principes de jugement. Eh bien, Rashi cite un Midrash important et qui dit ceci. Le fait qu'il y ait écrit au début du verset « et voici le jugement » et non pas seulement l'expression qui aurait pu être plus habituelle, plus normale « voici le jugement que tu proposeras à la société d'Israël » mais « et voici le jugement » Rashi nous dit ce « et » relie les jugements au texte précédent des 10 commandements, et de la manière suivante, de même que les premiers commandements étaient du Sinaï, de même ces commandements sont aussi du Sinaï. Je reprends très brièvement la lecture de ce Midrash. Nous avons d'abord le texte des 10 commandements, essentiellement dans le chapitre 20 de l'Exode, qui nous donne la définition de qui est le tzaddik. L'implication immédiate serait « et qui ne correspond pas à cette définition n'est plus tzaddik ». Et par conséquent, à la première faute, eh bien, on aurait perdu l'authenticité humaine et donc la finalité de sa propre histoire. Il y aurait, comme on pourrait dire à la limite, dans un terme théologique extrême, il y aurait damnation. On serait hors du sens de l'histoire du monde créé. Mais immédiatement après, toute une législation des Mishpatim va suivre les 10 commandements. Et elle est reliée au texte des 10 commandements. Le Midrash met en évidence quelque chose d'extrêmement important. C'est pour nous faire comprendre que non seulement les 10 commandements de la charte du tzaddik, mais aussi les principes de la législation des jugements de récupération, si j'ose dire, sont du Sinaï. Or, vous comprenez tout de suite au niveau de l'exégèse la difficulté de ce Midrash. Nous savons par postulat, par définition, que tous les commandements de la loi sont du Sinaï. Que signifie donc ce raisonnement ? Non seulement les 10 commandements, mais aussi les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'ajouté en nous disant que les Mishpatim du chapitre 21 sont, font aussi partie de la loi du Sinaï et pas seulement les dix commandements des tables. Alors, je voudrais citer une interprétation du Shla sur ce Midrash pour mettre en évidence l'intention dans laquelle Rashi le cite. C'est que cette expression, non seulement les précédents, ça veut dire les précédentes lois dans la première lecture, mais aussi les suivants, les lois suivantes. Non seulement les Aseret HaDibérot, pour le dire en hébreu, mais aussi les Mishpatim sont du Sinaï, et Rashi cite la formule du Midrash, « Ma harishonim mi Sinaï, af aharonim mi Sinaï » dans la citation du Shla, « Ma elu mi Sinaï, af elu mi Sinaï » c'est-à-dire, pas seulement les dix commandements, mais aussi les Mishpatim sont du Sinaï, mais Rashi nous dit, ce raisonnement ne porte pas sur les lois elles-mêmes, mais sur les hommes tels qu'ils sont jugés par ces deux niveaux de la loi. Et cela veut dire, pas seulement les tzadikim, ceux qui sont capables, comme par définition, d'être adéquats à la loi, sont dits du Sinaï, et Dieu dit d'eux, je suis celui qui vous a libéré de la servitude, mais aussi les autres, les seconds, c'est-à-dire après la faute, est récupéré grâce à la fonction du Mishpat. Et il y a bien là ce que nous nommons en hébreu un chidush. Un chidush, ça veut dire quelque chose de nouveau nous est enseigné. En ce sens que nous aurions pu nous attendre, et, si vous voulez, à une attitude qui considérerait, eh bien, la charte de l'identité du juste a été révélée, et quiconque n'est pas vraiment adéquat à cette charte n'est pas dans le cas d'être juste. Ce serait le raisonnement le plus cohérent a priori. Alors il y a quelque chose de nouveau qui nous est révélé. Pas seulement ceux qui sont d'emblée, a priori, adéquats à la vérité de la loi, c'est-à-dire les tzadikim, mais ceux qui le redeviennent après le mishpat, c'est-à-dire, pour employer de nouveau ce terme, qui sont récupérés grâce à l'attitude qui consiste à accepter le jugement de la loi sur eux. Le chidouche étant déjà bien indiqué par la Mishnah du Pirkei Avot que j'ai cité tout à l'heure, le fait d'accepter en bonne volonté que la loi légifère sur le jugement porté sur la conduite qui avait été inadéquate, ce fait-là est en lui-même, si j'ose dire, rédempteur ou salvateur et récupère l'identité de celui qui n'était pas adéquat d'abord avec la loi et le remet au même niveau que celui du tzaddik. Et nous allons voir immédiatement dans la Gemara un texte qui récapitule toutes ces données et en nous enseignant quelque chose de plus, c'est-à-dire que peut-être celui qui est récupéré, si j'ose dire, le Baal Tshuva, celui qui est revenu grâce au Mishpat, peut-être qu'il est plus grand que celui qui n'avait jamais fauté, c'est-à-dire le tzaddik qui était d'emblée adéquat à la loi. Alors, avant d'aborder ce texte, je voudrais simplement rappeler les trois données, les données principales de cette introduction. C'est que lorsque nous nous posons la question de la destinée du tzaddik, alors apparaît une vertu supplémentaire qui est très centralement le propre du tzaddik, la vertu de Emouna, « Ve tzaddik be Emunato ichye », le juste vivra par sa foi, ça veut dire par la confiance que ce monde-ci débouche sur un autre monde. Puisque pendant tout le temps de ce monde-ci, le fait d'être tzaddik ne lui sert à rien à lui individuellement. Cela sert aux autres, mais pas à lui. Et que, d'autre part, ici ne serait authentifié que ce que nous nommons en hébreu le tzaddik meikara, c'est-à-dire le tzaddik a priori, celui qui, comme par nature, je dis bien comme par nature parce qu'on n'est jamais tzaddik par nature, mais celui qui, comme par nature, est adéquat à la table des dix commandements, et alors tous les autres, c'est-à-dire tous les autres, c'est-à-dire pratiquement tous les hommes, quel est leur, comment dire, le salut de leur destinée, alors c'est là qu'apparaît le Mishpat. C'est le Mishpat qui récupère dans l'ordre du salut ceux qui n'étaient pas des tzadikim a priori, et ces hommes sont nommés les Baalei Tshuva, c'est-à-dire ceux qui se définissent par la vertu du repentir. Voilà, ceci va nous servir donc d'introduction à la lecture de notre texte. J'espère que nous aurons suffisamment de temps d'en voir plusieurs dimensions. Est-ce que, quand même, peut-être il serait nécessaire de vous demander si tous les termes employés ont été suffisamment clairs? Est-ce que nous pouvons aborder la lecture immédiatement? Tout va bien? Bien, alors je voudrais d'abord définir à propos de quel Mishnah cet enseignement va nous être donné. C'est une Mishnah qui traite d'un point de la conduite de la prière et qui établit la halakha suivante. Vous commencez donc au Matnitin, c'est-à-dire au début de la Mishnah. Le sujet est apparemment très loin de notre problème, mais immédiatement nous allons le rejoindre. Hamit Palel Vetaha, celui qui prie et se trompe dans sa prière, simanra lo. C'est un mauvais signe pour lui. Nous verrons très brièvement de quoi il s'agit. Veim shaliach tzibur hu simanra besholcha. Et si c'est un envoyé de l'assemblée, si c'est celui qui prie au nom d'une assemblée, c'est un mauvais signe pour ceux qui l'ont envoyé. Et la Gemara immédiatement va établir une définition de l'attitude de la prière. La prière consiste à s'adresser à Dieu pour demander, dans l'ordre de ce monde-ci, de la vie de maintenant, une partie, un point, si vous voulez, de ce que est censé être la sanction du juste dans le monde à venir. Est-ce que c'est suffisamment clair? Pas encore. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie que je prie? Et nous allons prendre, si vous voulez, le sens strict de la liturgie de la prière de demande. Il y a différents rites par la parole. Il y a des rites de louange, il y a des rites de profession de foi, il y a des rites de confession, si vous voulez. Mais le rite qui est nommé prière, tefila, c'est un rite qui consiste à demander au Créateur quelque chose de plus que ce qu'il y a dans le monde où il m'a situé. Je me situe devant le Créateur et semble-t-il que je lui dis, je ne suis pas satisfait de mon sort, donne-moi quelque chose d'autre qui me manque. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, nous allons prendre directement au sérieux le processus liturgique de la prière demande. Prier, ça veut dire demander. D'ailleurs, même au niveau de la langue française, je vous en prie, ça veut dire je vous demande quelque chose. C'est demander dans une certaine attitude, mais ça signifie demander. Ne confondons pas, si vous voulez, avec les autres rites oraux que l'on fait par la parole, si vous voulez, et qui ne sont pas à proprement parler des prières. Ce sont d'autres rites, mais par un abus de langage ou par une extension du terme de prière, on a pris l'habitude de dire que ce sont aussi des prières. Par exemple, le texte que l'on nomme le Kaddish, et qui est un rite de sanctification, eh bien, ça n'a rien à voir avec une prière. Prière, ça veut dire je ressens un manque que je ne peux pas combler par mes propres forces, je me mets devant le Créateur et je lui demande à lui de combler ce manque. Donc c'est une entreprise, si vous voulez, d'une enveloppe spirituelle considérable. La prière, en ce sens-là, n'est pas chose simple. Mais nous allons admettre comme postulat qu'on a déjà lu tout le chapitre précédent, cette Mishnah, et que cela a été déjà évoqué. Et voilà qui peut arriver ce cas, que quelqu'un est en train de prier et se trompe dans sa prière, dit un mot à la place d'un autre mot. Alors la Mishnah établit que c'est un signe par lequel il est averti que sa prière n'est pas acceptée. Mais avant d'en arriver là, je voudrais reprendre la définition de la conduite de la prière. Ça signifie d'une certaine manière que je demande à Dieu quelque chose qui, dans tous les cas, en fin de compte, me sera donné en fin de compte lorsque je me trouverai dans le monde de la rétribution, mais je demande que cela me soit donné maintenant. Est-ce que c'est bien clair ?